J'ai appris à boiter sans que ça se voit parce que je pensais que c'était le plus simple, parce que je pensais peut-être à tort que, compte tenu de ma situation qui est forcément particulière, la personne à qui je parlerais ne comprendrait pas, en fait.
Quand dans sa vie on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix. Continuer à vivre ou pas. Et puis une fois ce plouf-plouf morbide tranché, continuer à vivre, d'accord. Mais comment ? Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air. Et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer. Bonjour Ronan.
Bonjour Sarah.
Aujourd'hui, les gens verront sûrement les photos. T'es un adulte, t'es un géant. mais je voudrais que tu me racontes d'abord ta petite enfance. Et à quoi ressemblait ta famille quand tu étais petit?
Alors, je suis né il y a déjà quelques années en Bretagne, dans une famille qui n'était peut-être pas la plus cultivée, la plus riche, mais qui était finalement une famille ordinaire d'une campagne d'un bord de mer breton. Une famille comme toutes les autres, on pourrait dire de loin. Et puis de près, ben, c'est une famille dans laquelle j'ai évolué, entouré de beaucoup de violence, beaucoup, beaucoup de violence, que j'ai subi et que j'étais le seul à avoir subi à ce moment-là. J'ai des frères et sœurs, j'ai un frère et une sœur, en dehors des légendes familiales, au moins ça c'est sûr, et très clairement, sauf à ce que je l'ignore, c'est peut-être aussi possible, mais ils n'ont pas été victimes des violences, puisque les violences que j'ai subies étaient de nature différente, ils n'ont pas été victimes des violences que j'ai pu subir.
Alors, avant que tu m'en dises un peu plus, tu es l'aîné de ta fratrie?
Oui. J'ai un frère et une sœur.
Est-ce que tu veux bien raconter de quoi tu as été victime?
Oui, je veux bien ça, président Sarah. Alors, pour être très clair, j'ai été victime de violence. Essentiellement le fait de ma mère et peut-être que mon père a laissé faire, j'en ignore d'ailleurs les raisons. Ces violences, elles étaient, je sais pas comment les hiérarchiser, je sais même pas si ça vaut le coup, donc je les livrais en vrac. Il y avait des violences physiques, j'aime pas le mot, classiques, c'est-à-dire des coups forts. Il y avait des violences sexuelles, et puis il y avait ces deux types de violences, s'inscrivait dans un quotidien de violence morale, d'humiliation parfois trashissime. Je te disais tout à l'heure que parfois mon histoire pouvait sentir la naphtaline, c'était les violences de l'époque, je sais pas s'il faut le dire comme ça, mais c'est ça mon enfance, c'est une enfance sans enfance, c'est une enfance de violence, c'est une enfance de survie, c'est pas une enfance d'espoir. Je me projetais pas enfant, c'est ça mon... C'était peut-être aussi une autre violence d'ailleurs. Je disais que je voulais être médecin, mais c'était tout.
Pour soigner, quoi.
Ouais.
Les gens autour de vous savent que t'es victime de violence?
Alors, il y a... autour de moi, il y a la famille, on va dire la famille de sang, celle de l'époque, qui n'est plus la mienne. Et il y a ma fille aujourd'hui. À l'époque, oui, ça se savait. Mais comme je te l'ai dit, je suis né dans un petit village. Peut-être que l'hiver, au mieux, il y avait 100 habitants. Il y en avait beaucoup plus l'été, c'était une station balnéaire. Et dans ce petit village, mis à part l'instituteur qui était quelqu'un de fabuleux et qui trouvait toujours les prétextes pour me garder à l'école pour que je travaille un peu plus, bah, le maire était de ma famille. La moitié du conseil municipal était de ma fille. Les agents municipaux, il y en avait deux. C'était ma famille. 50 habitants. Donc en gros, c'est trois familles et tout le monde est cousin. Oui, on savait, et c'est comme ça. Et puis, parfois, dans le fait de savoir, on sait avec un doute. C'est finalement exprimé par un enfant. Qu'est-ce que vaut la parole d'un enfant?
Tu rentres à l'école?
Oui.
Et comment ça se passe à l'école pour toi?
Bien mal. j'entre à l'école, j'avais déjà passé pas mal de temps chez ma grand-mère maternelle, qui a été importante pour moi. Tant en termes de repères qu'en termes d'amour, c'est à peu près le seul amour, aujourd'hui je crois réel, que j'avais. Je rentrais à l'école, c'est bien l'école parce que c'est une oasis, on se fait pas taper. On se fait moquer quand on est mal habillé, par exemple.
Elle prenait pas soin de toi ?
Non, pas vraiment. Alors, il pouvait y avoir parfois quelque chose même de caricatural. J'avais un beau vêtement qui était le prétexte, mais à côté de ça, il n'y avait rien d'autre. Donc oui, il y avait le mauvais habillement. Il y avait juste, finalement, la seule chose qui pouvait être intéressant, c'est si j'avais des bons résultats, et j'en avais, ça la flattait, elle avait besoin de ça. Donc, elle pouvait facialement prendre soin, m'appeler... je sais pas comment elle m'appelait, d'ailleurs, c'était sorti. Je l'appelais même pas maman. J'ai jamais prononcé ce mot-là. Jamais. Je dirais jamais ma maman, je dis ma mère. Donc oui, l'école est une oasis, à ce moment-là. L'école... Mais je l'intellectualise pas. Je sais pas à quoi elle va me servir. Je sais juste qu'elle n'est pas la maison. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'école est tellement différent de ce qui se passe à la maison. Et après, là, ma grand-mère va me dire que l'école va peut-être être pour moi un moyen d'avoir une autre vie. Je garde beaucoup en mémoire cette affirmation parce qu'elle m'avait donné une phrase qui était très compliquée à l'époque. Elle me disait « la caque sent toujours le hareng ». La caque, c'est un tonneau dans lequel on mettait les harengs d'un côté et on ramenait du rhum de l'autre. C'est une manière de me dire, on saura toujours d'où tu viens, mais l'école, elle peut te changer. J'avais rien pigé à l'époque de ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, peut-être différemment.
Les violences continuent au fur et à mesure de quand tu grandis, ça, quand tu es en primaire.
Elles ne s'arrêtent pas. Et il y a une dimension, je le dis aujourd'hui, je n'aurais jamais exprimé ainsi à l'époque, parce que d'abord, on n'a pas la même maturité. Il y avait une dimension sexuelle importante dans ces violences. Et forcément, à 8 ans, on n'est plus un petit enfant de 3 ans. À 12 ans, on est encore moins, on devient un homme. On a une voix qui devient grave. On a des organes génitaux qui se développent. Des signes extérieurs de genre, les poils, par exemple, chez moi. Et plus ça devenait une réalité, plus les violences étaient fortes. Je suis tout pris dans la tronche. Je me suis pris des meubles, je me suis pris des coups. Et j'ai pris des choses que pas dans la tronche, en fait. Donc, oui, les violences, elles ont toujours été là, en fait. Alors, il pouvait y avoir, si je suis objectif, 2-3 moments où c'était plus calme. Mais personne n'y croyait, en fait. Et elle faisait la pluie et le beau temps. Et dans la maison, quand c'était calme, on constatait pas que c'était calme. On attendait de savoir quand serait la prochaine tempête. Et moi, le premier.
Et la police a jamais été dans le film ?
La police, elle a été dans le film. La police, c'est la gendarmerie. Et la gendarmerie, elle vit sur le territoire à l'époque. Aujourd'hui aussi. La gendarmerie, elle est venue à plusieurs reprises. Et notamment une fois où je me suis fait passer un savon par les gendarmes qui sont venus. En me disant qu'il fallait faire attention à ce que je dis. Qu'il ne fallait pas mentir, qu'on n'avait qu'un papa et une maman. Tout ça, donc on n'y croit plus. Il y a juste un point, je m'en souviendrai toujours, c'est dans ces gendarmes qui sont venus, il y avait un type qui était plus jeune qu'eux, pardon pour le mot, il avait l'air moins con, et il avait des épaulettes vertes. J'ai su après que ça voulait dire que c'était un élève officier. Et à l'époque, j'étais un peu romantique et je lui avais dit, tant pis, tant pis, vaut mieux subir l'erreur que de la commettre. J'étais prêt ado. Et c'est là où il m'a dit, on peut se voir à part. Et lui, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il a eu un impact sur ma vie en tout cas. Parce que les deux vieux qui faisaient fonction de gendarme, voilà, ils m'ont savonné avant même de savoir quelle était ma situation.
Il t'a dit quoi, lui ?
Il m'a pris à part, il m'a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui ai dit « Mais c'est parce que ça va pas, que je suis cogné en permanence, que je suis maltraité. » Je n'avais pas parlé de violence sexuelle parce que la violence sexuelle chez un homme, je ne cherche pas à hiérarchiser. Elles sont moins évidentes pour les autres. Il est presque admissible, j'entends le propos de cynique, qu'une fille, une jeune femme soit victime de violences sexuelles parce que du côté de ceux qui légitiment la violence, c'est le schéma le plus courant, donc c'est ce qui est normal. Bien évidemment, c'est pas le mien. Mais un garçon victime de violence, plus encore par une femme, c'est pas le schéma. Donc ça, c'est des choses qu'on n'évoque pas. Pas parce qu'on croit qu'on va pas être cru, peut-être parce qu'on croit, à tort, qu'on va perdre ce qu'on est en train de construire, c'est-à-dire sa dimension d'homme.
À un moment, t'es sorti de cette famille, de cette maison ?
Oui. Je suis sorti à plusieurs reprises. Au début, c'était un peu artisanal. Ma grand-mère, mon grand-oncle s'arrangeaient pour que je passe des vacances plutôt longues hors leur présence, ou ma grand-mère, qui était institutrice à Créteil, faisait en sorte que je vienne de temps en temps passer du temps. Ça me sortait. Et puis, petit à petit, la situation est devenue intenable. Et quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à exprimer les choses. Et puis, à un moment, j'ai arrêté de me taire et de baisser les yeux quand on m'expliquait en face qu'on n'avait qu'un papa et qu'une maman. Je me souviens d'ailleurs, on leur avait dit un père et une mère, et pas un papa et une maman. J'ai rejoint une famille.
Donc c'est l'aide sociale à l'enfance.
Voilà, alors à l'époque ça s'appelait l'ADAS, mais ouais, c'est ouais. Ça. Et j'ai rejoint une famille qui encore, alors malheureusement il n'y a plus beaucoup de monde, mais ça c'est l'histoire du temps, mais il en reste, et c'est ma famille. Et quand je dis... Alors, aujourd'hui, je veux faire ci ou je veux faire ça. Ben, je parle d'Annie comme de ma famille et de l'endroit où j'ai grandi. Comme si finalement le peu de temps, puisque si on rapporte ça à mon enfance, j'ai passé peu de temps par rapport à tout le reste. C'était là où j'avais commencé à vivre.
T'es resté combien de temps, de quel âge à quel âge chez eux?
14 et demi à 17, 18 quoi, puisqu'après on est majeur.
Et quand t'es devenu majeur, t'as décidé de faire des études, de travailler. Comment t'as abordé ta vie d'adulte, de tout petit adulte?
En artisan, et je ne sais même pas si c'était un artisan talentueux. J'étais un peu arrogant. Je voulais oublier, je voulais passer à autre chose. Je savais pas à quoi. À ce moment-là, j'ai grandi en Bretagne. En Bretagne, il y a la mer. Et en Bretagne, un des sports nationaux, c'est aussi la voile. Et la voile, ça a été aussi pour moi, j'aime pas la notion d'échappatoire, mais un endroit où j'étais sécure, j'étais tranquille, presque protégé, même s'il y avait la houle au vrai sens du terme, où j'ai rencontré du monde, et du monde que je n'aurais jamais rencontré. Je me souviens un jour, j'avais été embarqué sur un énorme bateau. Et je parlais au propriétaire du bateau, j'avais 18 ou 19 ans, je pouvais pas savoir ce que c'était qu'un capitaine d'industrie. Et aujourd'hui, ce type-là, qui est à la retraite, était le patron des fleurons du luxe cosmétique français. Et j'ai vu des gens de cet acabit, alors lui, j'ai pas vu souvent, puis j'en ai vu d'autres qui avaient des vies professionnelles qu'on qualifierait aujourd'hui de réussies. Moi, je sais pas ce que ça voulait dire. Mais en tout cas, je voyais que c'était différent de l'environnement qui était le mien quand j'étais enfant et ado. Donc, j'ai fait ces études en me disant, il y aura un lendemain. Je ne sais pas comment il sera. J'ai commencé à faire des études. C'était pas facile. Les études, ça se finance. Les bourses, on les a en général sur le revenu des parents, ou alors faut passer par d'autres processus administratifs qui sont parfois un peu longs.
Surtout quand t'as 18 ans et que t'es tout seul.
Et voilà. Et que quand on est tout seul, il faut travailler pour nourrir. Donc, ça limite déjà le temps utile. Donc, j'ai fait des études tout en travaillant à côté pour les financer.
Tu faisais quoi comme travail?
Un peu de tout. J'ai joué un peu au moniteur de voile et aussi, surtout, ce qui était facile et ce qui permettait aussi de faire, d'avoir des revenus divers, c'est de l'entretien. Notamment, je faisais ménage industriel. J'avais nettoyé des WC et des vestiaires.
Et t'avais quoi comme étude, si c'est pas un secret?
Rien. Non, non, il n'y a pas de secret. Ça va bien se passer. J'ai fait des études de médecine au départ, parce que je voulais être médecin. Et après même, j'avais formalisé ce que je voulais devenir comme médecin. Et ça n'a pas marché, probablement par plein de raisons. Certaines devaient être liées à moi. Rien n'est lié qu'aux autres ou à sa propre situation. À l'époque, c'était quand même très concurrentiel, médecine. Et on disait toujours, il faut passer par les cours privés de soutien. Moi, les cours privés, je ne les faisais pas. J'allais nettoyer des toilettes chez Pierre et Vacances. Je ne sais même plus si Pierre et Vacances existent aujourd'hui. Mais... Donc voilà, Mais écoute, c'est un mal pour un bien parce que j'ai fait ensuite des études de droit et de sciences politiques qui ont plutôt bien marché. Je suis devenu avocat, j'ai même enseigné le droit ensuite à l'université. Voilà, et c'est le hasard de la vie. Et aujourd'hui, je ne suis pas médecin, mais mon quotidien professionnel, c'est le monde de la santé. Je crois que c'est un monde que tu connais un peu aussi. Mais voilà, c'est mon quotidien.
Donc, t'es un jeune homme, tu fais ces études, tu fais de la voile. Est-ce que les gens autour de toi savent ce que t'as traversé ou est-ce que tu te construis une image parfaite?
Alors, je ne sais pas s'ils savent ou pas. Moi, ce que je sais en revanche, c'est que je n'ai pas envie qu'ils sachent. Parce que j'ai trop vu ce qu'était le jugement. Alors peut-être que j'ai une appréciation du jugement qui n'est pas bonne, mais j'ai trop vu ce que c'était le jugement. Et quand on raconte ce qu'on a vécu, prenons l'exemple très simple d'une violence sexuelle. Elle est, comme je le disais tout à l'heure, elle n'est pas envisageable pour un jeune garçon, moins envisageable. Et ce qui me faisait peur, c'était pas tant de dire voilà ce qui s'est passé. C'était ensuite la tête, la tronche que faisaient les gens quand ils se représentaient. Et là, c'est peut-être un coup de gueule, mais pendant très longtemps, on a utilisé des verbes comme se faire violer. Non, non, on est violé. Ou qu'est-ce que t'as fait pour? Non, j'ai rien fait pour. J'ai été battu. Qu'est-ce que t'as fait pour? Qu'est-ce qui se passe mal? Je ne sais pas. J'étais enfant, j'avais pas à répondre à ces questions. Et donc, pour ne pas avoir à y répondre différemment après. J'ai construit peut-être mal une apparence sans avoir recours au mensonge. Alors parfois il y avait du mensonge par omission. Hein, quand on me demande dans quelle promo étaient mes parents dans certains cadres professionnels, comment dire, je l'ai plus en tête. Voilà, ça pouvait être une réponse.
Tu m'as dit un truc à la volée et qui m'a beaucoup touché. Tu m'as dit que quand les gens autour de toi, dans ta vie professionnelle, racontaient entre deux portes les projets qu'ils avaient avec leurs enfants, le week-end, leurs femmes, des choses comme ça, des choses même assez banales, t'avais pas cet alphabet et tu comprenais pas ce qu'ils vivaient.
Ben c'est ça, pour moi c'était des zombies, je voulais pas qu'ils le sachent, je voulais pas dire que parfois je comprenais pas des choses qui semblaient être évidentes pour eux. Mais oui, ça oppose finalement. Et donc, j'ai toujours eu parfois du mal à créer des liens, j'allais dire plus personnels avec les gens avec qui je travaillais. Parce qu'à un moment, faut enlever le manteau quand on crée des liens personnels. Il faut un minimum, je vais pas dire de non-pudeur, ça, la pudeur, je pense que c'est important. Mais on peut pas continuer à ne pas répondre aux réponses, à éluder, à faire de la langue de bois. Et donc, dans ce monde professionnel, ça a toujours été difficile. Alors que le monde que je choisissais, mon environnement personnel, je le choisissais pour qu'il me soit simple. Je choisissais pas ma hiérarchie ou mes collaborateurs, enfin les gens avec qui je travaille. Donc c'était un monde qui a été difficile pour moi au départ, le monde professionnel. C'est un monde, il a fallu, je vais pas dire tricher, mais faire comme si. Et parfois la nuance, elle est
Elle est
difficile.
ouais, elle est fine. De tout ce qu'on dit, ça veut dire que jusqu'à ta vie de même avancée, sans t'offenser, hein, d'adulte, t'as jamais travaillé comme on dit ou vu quelqu'un ou tu t'es jamais penché sur ce qui t'avait fait tellement de chagrin et tellement de mal. T'as vécu malgré ça.
J'ai appris à boiter sans que ça se voit parce que je pensais que c'était le plus simple, parce que je pensais peut-être à tort que compte tenu de ma situation qui est forcément particulière, la personne à qui je parlerai ne comprendrait pas. En fait, je pense que ces gens ne voient que des gens qui ont des situations particulières. Et j'y croyais pas, c'est assez difficile à dire, j'y croyais pas parce que j'avais pas identifié plutôt les autres, ces institutions-là, médecins, comme étant une possibilité de recours, une aide. Et donc, non, j'ai mis beaucoup de temps et puis il y a eu un déclic. Tu parlais dans un de tes posts vendredi dernier de grains de sable, pardon d'avoir été l'un de ces deux. Mais il y a eu un déclic dans ma vie. C'est qu'un jour, je devais rejoindre des amis à la Belle Équipe, qui est un bar à côté de chez moi, qui est tenu par un copain, à laquelle soirée, il devait y avoir beaucoup de copains. Et puis, il y a quelques tarés qui ont décidé de sulfater tout le monde sur la terrasse. Et c'est violent. Ça n'a pas de.
Ça
Je
n'a
sais
pas de
pas,
sens.
ça n'a pas d'adjectif pour caractériser, mais. J'ai perdu mon français désormais depuis que je réfléchis et c'est toujours difficile de trouver des qualificatifs pour des situations. Et là, rapidement, je vois se mettre en place des structures d'aide psychologique, d'accompagnement. Excuse-moi,
attends, tu glisses très vite. Tu as perdu des gens que tu connaissais?
Oui. Des gens qui faisaient partie de mon quotidien. Pas forcément des intimes, mais des gens avec qui je parlais, je pouvais prendre le café tous les matins, dont je connaissais pas le nom de famille, mais dont je connaissais le prénom, que ça faisait 3 ans, 5 ans, donc je connaissais le prénom, qui était employé à la belle équipe aussi d'autres et que je connaissais mieux parce que, comme je te l'ai dit, le propriétaire est un pote. Et puis je suis là, et puis le lendemain, on est sur place, il y a beaucoup de choses à faire après un carnage. Déjà se retrouver, se faire des bisous, de se dire sans y croire que la vie est belle, et puis de gérer de la logistique. Et dans la logistique, il y a des choses moches, et puis il y a aussi des choses qui sont pleines d'espoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent pour te dire « on va vous aider, on va vous accompagner ». Et encore une fois, je suis un peu spectateur de ma propre vie. C'est-à-dire que j'essaie de... J'entends parler d'accompagnement, mais là c'est concret, ça concerne moi potentiellement, mes proches, et c'est quelques temps après que je vais appeler un psychiatre.
Donc, excuse-moi, mais tu vois des gens qui organisent une prise en charge psy,
ouais.
Et tu te dis, tiens, peut-être que moi, j'ai des trucs à raconter.
Je me dis même, j'ai plus qu'un sac à vider, j'ai une expression que j'aime bien, qui est homemade, hein. C'est faut ranger les bouquins sur l'étagère, là. Ça veut plus rien dire. Et donc, j'ai téléphoné à un psychiatre, je me suis déjà assuré que personne dans mon entourage le connaissait, comme si j'y
allais. Comment tu l'as choisi?
Je l'ai choisi relativement loin de mon domicile pour être sûr de croiser personne. Je l'ai choisi pour aller pouvoir y aller sans que ça se voit dans mon emploi du temps. Donc c'est véritablement un choix complètement foireux, même si il m'a beaucoup aidé. Et je me souviens, je l'ai appelé en espérant qu'il me dise « mais non, t'as pas besoin d'aide ». Donc je lui ai dit « écoutez, j'étais confronté à des violences dont vous avez probablement entendu parler dans la presse et moi-même j'ai un passé qui peut-être mériterait... que j'en parle, mais peut-être que vous allez me dire que c'est pas la peine. Enfin, je cherchais à ce qu'ils me disent, j'ai pas besoin de te voir. Et puis finalement, il m'a dit, je vous vois demain à 18h. Zut, il a fallu que j'y aille. J'y suis resté 1 an et demi. Et à un moment, j'ai arrêté. Et j'ai aussi des raisons d'avoir arrêté. C'est qu'à un moment, j'estimais, peut-être que je reprendrai plus tard, que j'avais suffisamment d'outils pour gérer ma situation, ou tenter d'essayer de la gérer. Et puis quand ça devait s'arrêter parce que j'en avais un peu marre d'être tout nu une fois par semaine, j'y allais beaucoup une fois par semaine, et à un moment j'avais envie de retrouver ce qui me manquait aussi, c'était mon intimité. Je l'avais exposée, maintenant il fallait qu'elle redevienne mienne. Et tout à l'heure je t'ai parlé, je te dis il faut savoir enlever le manteau quand on se confie aux gens au milieu, mais il fallait que je me rhabille. Mais cette fois-ci j'avais eu le temps de me voir comme jamais je m'étais vu, d'assumer certaines cicatrices que je vois tous les jours l'avant, et ces cicatrices, je sais quelle est la femme qui me les a faites, et je la vois tous les jours. Ben maintenant, ça y est, j'arrivais à me voir comme ça, tout nu, et j'arrivais à me voir habillé, mais habillé, c'est une image. Et donc maintenant, c'était, je crois que depuis lui et mes copains, mais qui en parlent différemment, il n'y a qu'à toi que j'en ai parlé. Donc ça reste entre nous, je crois.
Oui, fais-moi confiance.
Ouais, et puis je sais. Et puis je sais aussi qu'il peut écouter tes podcasts. Mais c'est pas grave, ils sont.
Tu m'as parlé de la famille dans laquelle tu es né et que tu n'as pas choisi. Tu m'as parlé d'une famille qui a choisi de t'accueillir. Est-ce que maintenant tu peux me parler de la famille que tu construis, toi?
Oui, elle est belle, je crois. Aujourd'hui, je suis dans une famille de 3. Avec une petite fille qui va avoir 4 ans au mois de décembre, qui est ma princesse d'amour, que j'ai eue au terme d'un parcours un peu atypique. Elle est née après un processus de GPA aux États-Unis. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, j'ai un grand nez, et peut-être c'est une image pour dire que parfois, on repère les gens, c'est intuitif. Il y a aussi une rencontre qui a été... C'est un autre grain de sable, en fait. J'aime bien ton image de grain de sable, ça. J'ai un sacré bac à sable, moi aussi. L'expression bac à sable est... Il y a un autre grain de sable qui rentre. C'est une rencontre complètement... Mais le grain de sable, en fait. Un jour, je vais dans une assoce dans laquelle je suis engagé depuis une aventure professionnelle. Et sur le palier...
Tu peux dire ce que c'est comme assoce?
Oui, c'est une association de lutte contre le VIH. C'est un fonds de dotation. J'ai travaillé dans...
Dans la santé.
Dans la santé. Et à l'époque, la patronne de l'équipe où j'étais voulait s'investir sur les questions de VIH-Sida avec une vision, je n'avais pas à confirmer ou infirmer sa vision, mais dans laquelle je me reconnaissais. Et j'ai découvert tous ces combats, ces enjeux de sanitaire et politique. Et donc, il y a une association qui est née, qui finance aujourd'hui Aide, alors que j'étais loin de ces sujets. Et donc, un jour, je me rends dans cette association juste pour envisager quel va être le fléchage des fonds qu'on a levés. Et sur le palier, il y a un gamin. Enfin, je dis un gamin, il a à l'époque 22, 23, je sais pas. Bon, il a les yeux de quelqu'un qui va mourir. On va dire les choses. Lui, il le sait pas. Moi, je le sais. Il a les yeux de quelqu'un qui a souffert. Je pense pouvoir identifier les mêmes, certaines souffrances communes. Et c'est couillon parce que ce jour-là, j'y vais, je m'échappe rapidement du boulot, je suis en costume cravate et je vois quelqu'un qui me ressemble et qui, lui, est en train de crever, qui, manifestement, qui va pas bien, qui... Comme disait ma patronne de l'époque, il collectionne celui-ci, il coche toutes les cases. Bon, je lui offre un café dans les locaux de la sauce et puis je me casse. Et le soir, je suis pas confortable parce que je me souviens de ce gendarme à l'épaulette verte, de gens avec qui j'ai fait de la voile, de gens qui m'ont tendu la main. Moi, j'ai payé un café et puis je me suis cassé en lui souhaitant bonne chance. C'est moche, en fait. Pour moi, c'est moche. Je demande pas aux autres d'avoir les mêmes considérations. Pour moi, c'est moche. Et le lendemain, quand je retourne travailler, j'ai la secrète idée de le revoir. Je sais pas pourquoi. Puis je me dis, je vais l'aider. Puis j'en parle. Puis parfois, dans les situations complexes, on ne sait pas trouver des solutions. Bon, je suis pas là pour parler de sa vie. Elle lui appartient. Elle nous appartient maintenant. Aujourd'hui, il est en cours d'adoption.
C'est un adulte. Tu as fait un saut trop grand. Donc, tu es retourné.
Je suis retourné.
Et tu lui as offert un toit.
Bah, pas tout de suite, parce qu'on se dit pas, je vais lui offrir un toit. Mais le soir, quand je lui demande où il va dormir, il me dit, je ne sais pas. Alors, je lui ai dit... chez moi, il y a deux étages. C'est pas un palace, mais il y a deux étages. En bas, il y a un canapé. Tu vas y dormir. Mais moi aussi, je sais, parfois, je connais la face cachée de la lune.
Ouais.
Il manque rien demain matin. C'est odieux, ce que j'ai dit, en fait. Je dis, je veux pas de problème.
Non, mais c'est odieux maintenant avec le recul. Mais à l'époque, c'était légitime que tu lui dises ça.
Probablement. Bon, il est resté. Le lendemain matin, il est parti. Je lui ai donné rendez-vous. J'ai essayé de le mettre dans un circuit. Les circuits sont pas toujours adaptés, tu vois. Les circuits changent. Moi, j'ai un vieux moustachu pour reprendre une, qui me dit on n'a qu'un papa et qu'une maman. Non, il aurait dû dire père et mère déjà. Il connaissait pas les liens. Bon, aujourd'hui, les structures de prise en charge des gens qui échappent à tous les radars sociaux et sanitaires, elles marchent parfois, elles marchent pas parfois, elles marchaient pas pour lui. Donc j'ai offert un toit, un café, j'ai essayé, puis finalement je me suis dit, ça va me prendre 2 heures par semaine, mais je vais la faire, la structure pour lui. Ça n'a pas été facile. C'est pas simple, tu sais, de se dire qu'on va devenir papa, qu'on va être célibataire, qu'on a un programme de surrogacy, que quand il y a un pépin de gestation, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Moi, je l'ai fait avec des gens avec qui je suis encore en rapport, que ma fille connaît aujourd'hui. Mais
et en parallèle, t'attendais ta fille en parallèle.
Et j'ai ça qui me, j'ai ce grain de sable et je me sens pas capable de dire, je continue à m'appeler Ronan si je laisse ce grain de sable dans le bac en fait. Et pardon pour les copyrights, mais celui-là je vais te le prendre.
C'est cadeau.
Merci. J'attends.
On m'a piqué tellement de trucs, celui-là je te le donne.
Et c'est violent parce que je me dis, il y a une gamine qui va arriver, je peux pas imposer ça. Je ne sais pas. Et moi j'aime pas faire des plans parce que je sais que malheureusement les espoirs c'est pas toujours des réalités quelques années après. Je suis passé par 1000 étapes, puis il a commencé à venir de temps en temps à la maison, puis il est resté, mais du coup il a tout vécu à la maison, des de compensation psy. Il a un passé, moi à côté c'est piece of cake, comme je dis, c'est la plus belle des enfances, en partie. Et il est là, et je me heurte à tout. À la méconnaissance de ce qu'est le monde des addictions, à la méconnaissance de ce qu'est le monde des migrations, de l'enfance arrachée, des violences, de l'incapacité à communiquer quand on maîtrise pas encore une langue, de pas avoir les bons papiers, d'arriver au mauvais moment, peut-être quand on appelle qui police secours, qui les pompiers, qu'on nous répond il y a pas le temps, on n'est pas des assistantes sociales. J'ai dû demander une hospitalisation, j'ai dû porter plainte contre lui pour qu'enfin les pouvoirs publics s'en mêlent. T'imagines ce que c'est porter plainte contre un gamin alors que tu sais que à la sortie, il sera là. Tu sais pas sous quel format, fils, protégé, aidé, mais il sera là, c'est une évidence. Et puis, il y a ta fille qui est arrivée. Et elle sait pas encore le nommer, qu'elle a la commission d'élèves qui arrive à au peu de cheveux roux qu'elle a sur la tête à ce moment-là, tellement quand elle fait des feux de joie dans les yeux quand elle le voit. Et voilà, et ce gamin aujourd'hui, bah, il est dans ma famille, donc pour répondre, je suis toujours aussi bavard, ça, Sarah, tu le sais. Mais être bavard, parfois, c'était ne pas répondre aux questions. Là, j'essaye pour une première fois de ma vie d'y répondre. Et donc, je me retrouve à la tête d'une famille un peu atypique, c'est-à-dire un gamin que je n'ai pas eu, qui n'est pas de moi, mais qui est mon gamin aujourd'hui, qui est âgé, et ma princesse d'amour d'amour, qui est ma fille, comme lui, et qui lui a fait aussi un beau cadeau. Une famille, c'est pas que moi, en fait. C'est pas ma famille, c'est la leur autant que la mienne. Et qui, l'année dernière, de manière mais évidente, il n'y a jamais eu de forcing chez moi. Je ne l'ai pas forcé à qualifier sa relation avec lui. Et le soir de Noël, elle commençait un peu à parler, tu vois. Elle est sur ses 3 ans. Et elle est contente, elle dit Noël en famille. C'était la première fois que j'entendais ce mot-là chez moi. Et elle me dit, ah ben il y a mon papa et puis il y a mon frère. Elle n'avait jamais dit le mot frère, elle le connaissait, mais elle ne l'avait jamais dit. Une étude de te dire que le grand zouave qui faisait fonction de frère tatoué de partout a chialé pendant 2 heures. J'ai passé un magnifique Noël. En fait, j'ai réalisé que j'avais une famille. Et voilà, voilà à quoi ressemble ma famille aujourd'hui. Mais elle est heureuse. Et moi aussi.
C'est ce que j'allais te demander, t'es heureux alors?
Bah, c'est génial. Enfin, c'est génial. C'est génial. Je n'ai qu'une envie de tous les jours, c'est quitter mon boulot que j'aime pour retrouver ce que j'aime encore plus. Enfin, et c'est même pas histoire de dire c'est ma chère, il y en a des deux qui n'est pas de moi. C'est mes enfants, basta. C'est comme ça.